Espace public, édition spéciale, élection départementale. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Monsieur Schrecki et Madame Michaud, candidats pour soutenus par l'UMP et l'UDI sur le canton de Bourgoin-Jallieu. Monsieur Vincent Schrecki est naturellement depuis un an maintenant maire de Bourgoin-Jallieu. Et Madame Michaud, vous allez peut-être vous présenter maintenant. Bonjour.
Bonjour. Donc, Evelyne Michaud, maire de Saint-Savin pour le deuxième mandat, vice-présidente CAPI, ayant en charge au niveau des délégations tout ce qui concerne les moyens généraux, les bâtiments, et présidente du conseil d'administration des Tilleuls, charge que j'avais déjà par rapport à mon premier mandat de vice-présidente CAPI sur les personnes âgées et l'accessibilité, domaine qui me touche beaucoup.
Merci. Monsieur Schrecki, peut-être on va faire un petit peu de présentation aussi.
Bien sûr. Donc, je suis conseiller régional depuis 2010, ce qui me permet d'être actif sur un peu tout le territoire du Nord-Isère. Et puis, en 2014, je me suis effectivement investi davantage sur la ville de Bourgoin-Jallieu avec toute une équipe très engagée, motivée, en tout cas qui a été jugée telle, puisque les électeurs nous ont fait confiance pour la première fois en 40 ans, on a eu l'alternance à Bourgoin-Jallieu, et depuis, on est au travail pour mettre en œuvre nos engagements et répondre aux attentes des électeurs.
Alors, vous êtes tous les deux des élus locaux du canton. Pourquoi cette candidature au conseil, j'allais dire général, mais il est bien entendu que le conseil est devient départemental. On y reviendra juste après. Pourquoi cette candidature?
Alors, l'investissement, et quand j'ai rencontré Vincent pour justement qu'on parle ensemble vis-à-vis de ces départementales, en tant que maire depuis 2008 d'une commune rurale, au fur et à mesure de mon rôle d'élu, je me suis rendu compte de l'importance de ces financements, nos impôts, vis-à-vis du département par rapport aux compétences, et qu'il était aussi important que nous, en tant d'élus, en ayant ces expériences sur les demandes de subventions, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur tout ce qui concerne le social et surtout vis-à-vis aussi des personnes âgées, les jeunes aussi, que si il y avait quelque chose à faire, eh bien, autant que je participe et que j'apporte mes compétences autant vis-à-vis de ma vie professionnelle que vis-à-vis de mon rôle d'élu en tant que maire, et que des projets on en a, et que quand on veut les réaliser, surtout pour les communes rurales, bien que les villes-centres ont vraiment aussi leur importance, mais ce binôme, je trouve qu'il est très bien vis-à-vis du canton et du découpage de ce canton, de ce territoire, c'est qu'on peut, à l'heure d'aujourd'hui, travailler pour un ensemble et pour nos communes rurales.
Donc, en tant que maire, tous les deux, vous êtes peut-être les mieux placés pour voir l'importance de l'intervention du conseil général départemental dans les territoires et dans le développement des campagnes, notamment, qui sont très souvent oubliées du pouvoir centralisateur.
Je pense qu'il y a un double oubli. Le Nord-Isère a toujours été l'oublié des politiques départementales. Quand on est ici, on est assez loin de Grenoble. D'ailleurs, on est plus près de Lyon que de Grenoble. C'est la particularité du Nord-Isère. Et ça se ressent quand même depuis pas mal d'années dans les politiques départementales. Je pense que personne n'est capable de citer un grand projet départemental qui a été porté par le conseiller général pour ce territoire. Alors qu'à l'inverse, on est capable de citer beaucoup de dossiers qui sont en attente depuis 10 ou 20 ans. On a beaucoup parlé de la RD 520 et de la déviation de Flesailles, qui est un dossier que Evelyne connaît bien. Mais il y en a d'autres. C'est pour ça qu'on s'est engagé. Evelyne l'a dit, parce que on croit à ce territoire. Je pense qu'on est assez représentatif à travers l'équipe qu'on représente de la diversité de ce canton. On est deux Berjaniens, deux non-Berjaniens dans un canton où Bourgoin-Jallieu, c'est à peu près la moitié. Et Evelyne et Marie-Claire Lenné, sa suppléante, représentent les communes de Saint-Savin, Rue Monceau, et donc vraiment tout ce territoire rural. Parce que le territoire rural, il est doublement oublié. Le Nord-Isère est l'oublié du département, et le territoire rural, il est lui-même l'oublié des politiques. Donc ça fait beaucoup d'oubli à réparer, et on est engagé pour ça. On l'est aussi, c'est aussi Evelyne l'a dit, et je pense que c'est vraiment le cœur de notre candidature, parce qu'on est vraiment des élus locaux. Les gens ont un peu de mal à comprendre à quoi sert cette élection, à quoi sert le conseil départemental, on va peut-être y revenir. Voter pour des gens qui sont maires, qui sont adjoints aux maires, qui ont l'habitude du concret, de faire aboutir les projets, je pense que c'est la meilleure manière de donner du contenu et d'avoir une chance que les choses se fassent.
Est-ce que vous avez des exemples de projets que vous aimeriez voir mener à bien si, par le département?
Alors, c'est vrai que, en précisant que je suis vraiment, et comme Vincent, nous sommes des élus de terrain. J'ai jamais eu peur, on va dire, d'être sur le terrain, de parler avec les personnes et de suivre les dossiers jusqu'au bout. Si, sans parler de ma commune, hein, puisque je pense qu'économiquement, quand on a des infrastructures qui peinent et qui sont à l'heure d'aujourd'hui économiquement des fléaux. Si on prend l'exemple de la RD 522 à Saint-Savin, plus de 20 000 véhicules qui se bouchonnent, qui font du 5 à l'heure ou du 10 à l'heure, qui traversent Fleuzaille, la gare et en roulant, je dirais, des allures de tortue. À un moment donné, ce projet depuis 20 ans ne peut plus rester dans l'oubli permanent. On a fait des études, oui, le Conseil général a fait des études d'impact, environnemental et autres, mais il faut passer au concret. J'ai toujours dit, à l'heure d'aujourd'hui, les études, si on investit dans des études, derrière, il faut qu'il y ait les travaux. Il faut qu'on prévoie, qu'on le budgétise. Et c'est pas parce que des élections arrivent qu'à un moment donné, eh ben, il faut se dire, tiens, la RD 522, il faut qu'on y repense. Non, on est sur le terrain, je suis sur le terrain, je vois les problèmes que ça pose. Et que économiquement, le Nord-Isère, toutes ces communes qui sont autour et que ça relie la plaine de l'Ain, relié après le Grenoble, à ce moment-là, on ne peut pas bloquer l'économie, on ne peut pas faire en sorte que dans l'immobilisme, on pose des problèmes de pollution et de sécurité vis-à-vis des riverains. C'est un projet qui, pour moi, est un projet concret. Les infrastructures, les routes départementales, puisque ce sont bien des routes départementales, ben, il faut apporter la possibilité et aboutir les dossiers.
Moi, je voudrais également évoquer un projet qui, j'espère, vous tiendra à cœur, parce que on est sur site. Je ne sais pas si tout le monde connaît le studio de Couleur FN, mais on est aussi...
C'est aux 8 routes de Saint-Jean-de-Bornay, derrière la gare de Bourgoin. Voilà. Vous êtes tous les bienvenus.
Exactement. Et c'était pour vous permettre de faire ce petit clin d'œil. Et on est ici même, à 100 mètres, d'un point de congestion majeur de Bourgoin-Jallieu, qui est le passage souterrain au niveau de la gare, qui est la seule entrée sud dans Bourgoin-Jallieu. Il faut absolument faire une autre voie, une autre déviation, un, pour répondre à ces problèmes de congestion, mais deux, parce que c'est aussi la condition pour demain avoir un nouveau quartier ici sur le site des magasins généraux. On appelle ça le projet Urbagar, c'est pas pour tout de suite, mais dans quelques années ça pourrait se faire, à condition d'avoir cette voirie. Donc c'est l'illustration du fait que quand on laisse de côté ces infrastructures importantes, un, on règle pas les problèmes de nuisance, de pollution qu'évoquait à l'instant Evelyne, mais deux, on permet pas à notre territoire de se développer, parce que là, on est vraiment sur un cas où cette route, c'est la condition pour le développement de ce territoire.
Bien, alors vous parliez tout à l'heure de territoires oubliés. On a un petit peu l'impression que les élections départementales sont un petit peu les élections oubliées ces derniers temps. Et pourtant, il y a beaucoup de changements qui sont importants dans notre démocratie. Il y a d'une part le changement de dimension des régions bientôt. Et puis, il y a ce changement des élections départementales. Il y avait dans le temps, je crois, 59 cantons qui sont réduits à 28, si je ne me trompe, donc ce sont des changements substantiels. Les élections ne s'appellent plus cantonales mais départementales. On va écouter un petit micro-trottoir qu'on s'est permis de faire dans les rues de Bourgoin-Jallieu pour voir un petit peu ce que les bergaliens pensent de tout ça.
Je me sens pas très concernée en fait par ces élections. Bah, on a très peu d'informations sur les personnes qui se présentent, sur leur ce qu'elles vont faire, surtout sur leur rôle, le rôle qu'elles ont en fait.
Je pense que le Conseil général devrait disparaître, mais je vais aller voter quand même.
Et un souhait pour le département ou la région suite à ces élections?
Oui, que les impôts n'augmentent pas.
Bah, les élections départementales, d'ailleurs, pourquoi elles ont eu lieu? Puisque tout le monde voulait l'enlever, le Conseil. Donc, pourquoi ils se présentent tous déjà? Mais ce qui est bizarre quand même, c'est que on va voter un Conseil général qui vous est supprimé et que maintenant ils sont tous pour le garder. et surtout garder leur salaire excessif.
Oui, je suis au courant et je compte bien aller voter. J'ai pas tous les programmes de tous les candidats. Bah, j'imagine que tous les grands partis politiques sont représentés, mais après j'ai pas, voilà, je vous dis, je connais deux trois groupements, mais je connais pas l'ensemble des personnes qui se présentent.
Ben c'est important, je pense, au niveau du département, oui, parce que c'est proche de nous.
Bon, voilà un petit instantané de vie bergalienne. On y entend beaucoup de choses, mais notamment effectivement un manque crucial d'information et de proximité par rapport à ces élections des personnes. Qu'est-ce que ça vous...
Ouais, je pense que on peut peut-être dire que je fais de la politique, mais enfin ça en fait partie puisqu'on parle d'élections. Je suis là pour ça. Honnêtement, le gouvernement porte une assez lourde responsabilité. On est dans une situation qui est effectivement, l'un des personnes qui prenait la parole le disait, on n'y comprend rien, ils veulent tous le supprimer, finalement on le garde. Depuis 2 ans, le gouvernement est arrivé, ils ont dit on change de mode de scrutin, on crée le système du binôme, un homme, une femme. Mon avis, moi je suis très content de faire campagne avec Evelyne, elle le
de
sait. Mais je sais pas si ça améliore beaucoup la lisibilité du scrutin, de dire ce système à 2 et même à 4 avec les remplaçants. Donc on crée un nouveau mode de scrutin. Sous-entendu, on veut conforter cet échelon. Après, ils ont annoncé qu'ils allaient le supprimer. Après, ils ont dit que finalement, ils le supprimeraient pas, en tout cas pas en milieu rural. Comprennent qui pourra. Et maintenant, on est en train de voter en ce moment la loi sur les compétences des futurs départements. C'est-à-dire qu'on est dans cette situation qui est inédite sous la Ve République. Je suis en campagne avec Evelyne pour le conseil départemental, mais je ne sais pas pourquoi. En prenant les choses à l'extrême, en réalité on a quand même une petite idée, mais en prenant les choses à l'extrême, quels engagements je peux prendre alors que le législateur ne peut pas me dire aujourd'hui, ne peut pas fixer aujourd'hui quelle est la liste des compétences que nous aurons à exercer. Donc honnêtement, on a tout fait pour rendre la situation confuse, inextricable, et faut pas s'étonner après que les électeurs aient un peu de mal. Après, les électeurs sont des gens responsables, et moi j'admire les gens qui ont répondu à vos questions et qui disent on n'y comprend pas grand chose, on n'a pas l'impression qu'on nous aide beaucoup à comprendre, mais on ira quand même voter parce que c'est notre devoir. Je dis bravo.
Tout à fait, là je rejoins Vincent. Alors c'est vrai que la communication, quand on disait tout à l'heure, nous bien avant le démarrage des élections, on avait fait un courrier à tous les maires et pour se rencontrer avec les conseils municipaux de chaque commune pour justement déjà voir leur attente vis-à-vis de leur dossier, de leur situation. Et on a à l'ordre d'aujourd'hui dans notre agenda sur toute la partie campagne, on fait les réunions publiques sur tout le secteur, sur tout le canton, donc pour justement informer au maximum les personnes qui souhaitent en venant avoir les éléments concrets du rôle des conseillers, des futurs conseillers départementaux. D'où l'importance, et j'ai toujours été une femme de terrain, une élue de terrain, c'est qu'il faut aller à la rencontre des personnes, et même si on est élu, on est là justement pour apporter cette aide autant aux administrés qu'aux élus du canton.
Alors, vous nous l'avez dit, vous avez été sans doute parmi les premiers à commencer cette campagne. Maintenant, tous les partis politiques ont commencé très tard. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'il y a un désintérêt aussi parmi les politiques, peut-être en dehors de vos des partis majoritaires classiques?
Je pense qu'il y a eu une démarche un peu inédite d'union très tôt, très assumée, très revendiquée. Du côté de notre famille politique. Dès janvier, on avait tous les candidats de l'Union, de la droite et du centre. Vous avez dit que c'était les candidats soutenus par l'UMP et l'UDI, c'est vrai, mais c'est il y a beaucoup de candidats qui sont sans étiquette, n'est-ce pas, Evelyne?
Dans moi.
donc c'est vraiment une réunion, tous ceux qui veulent s'engager, de même que d'ailleurs dans le Conseil général d'aujourd'hui, il y a des candidats de sensibilité de droite qui siègent parmi les non inscrits et dont certains repartent sous nos couleurs. Donc voilà, c'est une union très large. Nous on a réussi ça, on a réussi assez tôt, et on sent bien que du côté de la gauche ça a été un peu plus compliqué, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils étaient en campagne un peu plus tard. Après c'est des choix un peu tactiques, il y en a qui se disent comme les gens sont pas attentifs, autant commencer plus tard, il y en a qui se disent au contraire comme on a du mal à les intéresser, autant s'y prendre tôt. Nous avec Evelyne on a fait un choix un peu pragmatique de se dire si on veut faire une vraie campagne de terrain ça prend du temps, faut prévoir les réunions, faut aller à contact du public, donc comme c'était notre choix on s'est organisé de cette manière-là.
Voilà, alors, jusqu'au bout.
En parlant de choix, c'est l'heure de la pause musicale et c'est vous qui avez fait le choix, Madame Michaud.
Oui.
Vous pouvez nous dire quoi ?
Vis-à-vis de... C'est vrai que cette chanson, enfin, pour ma part, déjà rien qu'à la musique, et ce groupe Indochine, pourtant je ne suis pas spécifiquement portée sur le rock, mais c'est un... Non, je veux dire, c'est un groupe de rock français. Mais elle m'évoque... Je dirais, sur les paroles, on se dit, est-ce que c'est pour les enfants de la Lune par rapport à ces enfants qui ont cette maladie? Est-ce que c'est pour eux un retour devant le public? Est-ce que c'est une chanson d'amour? Mais peu importe. Mais les paroles sont magnifiques. La musique est magnifique. Et le groupe, on a la chance d'avoir eu ce groupe et d'avoir ce groupe de rock, puisque en France, c'est quand même moins connu. Et là... Là, je crois qu'on ne peut pas trouver plus beau comme chanson.
Et alors, on l'écoute tout de suite.
Merci.
Chine, j'ai demandé à la Lune et c'était le choix d'Evelyne Michaud, binôme, colistière de Vincent Chriqui pour les élections départementales. Vous êtes bien sur Couleur FM, c'est l'émission Espace Public, c'est Vincent Chriqui, Evelyne Michaud qui sont avec nous, qui sont candidats aux élections départementales des 22 et 29 mars prochains. Et pour recommencer directement, peut-être on se remet dans le bain avec encore quelques sons qu'on a récoltés auprès d'acteurs associatifs de Bourgoin.
Je ne me suis pas encore préoccupée de pour qui j'allais voter pour l'instant. J'ai des contacts de personnes de mon entourage qui me disent « Tiens, je suis sur telle liste, tiens, je vais faire ça ». Et le fait que de les connaître personnellement, c'est plus motivant d'aller voter, de se dire bah, « Cette personne-là, j'ai confiance en elle, je vais peut-être voter pour elle » ou au contraire, je la connais, elle dit pas des choses qui m'intéressent, j'irai pas voter pour elle.
Vous avez employé le mot « confiance ». Vous avez toujours cette confiance-là ou pas ?
C'est difficile d'avoir confiance, oui, parce que même si on s'exprime, on a parfois l'impression de pas être entendu ou que les choix qui sont faits correspondent pas à ce qui avait été annoncé au départ. Après, j'ai conscience qu'il y a toute une dimension financière, par exemple, à laquelle on a très peu accès en tant que citoyen. Et du coup, quand il faut faire des choix, bah, financièrement, ça paraît logique d'être obligé d'en faire. Mais le résultat ne nous parle pas forcément si on n'a pas suivi tout le processus de décision. Ce que je vois depuis quelques années, c'est que quand même, les associations d'insertion ou culturelles font tout ce qu'elles peuvent pour continuer à exister malgré la baisse des subventions. Alors après, ça implique un engagement personnel plus important quand on a moins de financement extérieur. Mais voilà, ça continue. J'ai quand même de l'espoir.
Alors voilà, c'était une actrice associative de Bourgoin-Jallieu. On a décidé pour tous ces témoignages de garder l'anonymat. C'est pas très grave. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'elle dit, ce désir de proximité avec les institutions et pourtant ce sentiment d'éloignement des vraies raisons pour lesquelles on prend les décisions et aussi un grand questionnement sur la confiance vis-à-vis du politique.
Je peux simplement donner l'exemple en tant que maire. On a la chance sur Saint-Savin d'avoir plus d'une quarantaine d'associations. Et quand je parlais de proximité, c'est que ces associations, je les connais bien. Quand elles prennent la peine de faire des manifestations, eh ben j'y vais systématiquement. Parce que je pense que déjà, premièrement, ben, le bénévolat, à un moment donné, ben, va avoir du mal à survivre. Et que tout le travail qu'ils font, que ce soit culturel, que ce soit sportif, que ce soit même cultuel ou autre, si nous les élus, on ne prend pas la peine d'aller les voir, de les rencontrer. Ce que je me suis toujours engagée depuis 2008, c'est comme cela qu'on peut aider aussi les habitants de la commune à pouvoir s'intéresser à tout ce qui concerne, ce que je vous disais, le sport, la culture. Et c'est important. Et l'engagement, pareil, que ce soit sur une municipalité, que ce soit sur les départementales, le conseil général, il est exactement le même. Rencontrer les associations, voir le nécessaire qui peut être fait, avec aussi toujours un engagement clair. On peut ou on peut pas. Les moyens financiers, comme les dotations de l'État, font que nous, les communes, nous sommes obligés de réduire nos investissements. Ben, c'est vraiment, je dirais déjà dans un premier temps, si nous sommes élus, ben, de faire le point et de les rencontrer.
Sur par rapport à ce qui a été dit, notamment sur le contexte budgétaire, c'est un élément effectivement déterminant de notre élection. C'est un sentiment assez particulier de... Enfin, vous êtes élu et on se rend compte que la baisse des dotations de l'État fait que l'essentiel de l'énergie, du temps qu'on va déployer, ça va être moins pour mettre en œuvre des engagements de campagne, même si évidemment on essaie de tous les respecter, que de devoir gérer une enveloppe qui est en diminution et de faire tout un tas de choix très difficiles par rapport à ça. Alors ça correspond aussi à un engagement de campagne. On a dit on n'augmentera pas les impôts et tout en découle. À partir du moment où on n'augmente pas les impôts, il faut trouver un euro d'économie pour chaque euro que l'État nous verse en moins. Et c'est des montants qui sont absolument considérables. Mais toute la journée, moi je suis face à des associations, des administrés, des personnes qui disent mais on comprend pas, on a toujours eu ces services-là, pourquoi est-ce que vous le retirez ? Et on leur dit bah, de toute façon, on pourra pas continuer à faire tout ce qu'on faisait avec 2 millions en moins, puisque pour une commune comme Bourgoin-Jallieu, c'est 2 millions d'euros qu'on aura en moins en 2017 par rapport à 2014. 2 millions, c'est un montant qui est considérable à l'échelle de la commune. Et donc ça, c'est assez frustrant et je me mets à la place des gens qui sont en face de nous et qui disent bah, on comprend pas vraiment parce que c'est des sujets qui sont compliqués, on voit bien que les temps sont difficiles mais on n'a pas toutes les informations et nous on essaie de les donner au maximum. Moi j'ai expliqué la situation lors de mes vœux à la population, on fait des conseils de quartier dans les 10 quartiers de Bourgoin-Jallieu où on va vraiment à la rencontre des habitants pour essayer de leur expliquer. Et même avec tout ça, j'ai bien conscience que c'est difficile. Nous, le seul engagement qu'on peut prendre, c'est d'être parfaitement transparent, de bien expliquer pourquoi on prend les décisions qu'on prend, d'avoir des moments où on peut en débattre avec la population. Et après, on essaie de tenir bon parce que c'est aussi ce que les électeurs attendent. Il y a aussi un ras-le-bol fiscal. Dans le micro-trottoir qu'on a entendu avant, il y avait aussi ce qu'on peut être sûr de qu'ils augmenteront pas les impôts. Tout ce qu'on peut dire, c'est notre... c'est ce qu'on a fait jusqu'ici. Moi, j'ai succédé à une majorité socialiste. Il n'y avait pas de baisse des dotations. Et après chaque élection, ils ont augmenté les impôts. Nous, on a une baisse des dotations qui est considérable. Et on a fait le choix de pas augmenter les impôts. C'est beaucoup plus difficile. Mais on essaie de se tenir à cette ligne.
Mais alors, j'ai envie de demander comment on fait. On parlait tout à l'heure de territoires ruraux qui sont de plus en plus oubliés. Et en même temps, cette vie associative, c'est pas anodin. C'est aussi tout ce qui fait une sorte de continuité du service public. Et en particulier, quand on parle du conseil du département, c'est toute l'action sociale qui passe notamment par des prestataires associatifs partout dans le département. Donc, que vont devenir tous ces territoires ruraux où le conseil départemental a justement un fort rôle à jouer?
Alors il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui aussi, ce qui va faire le désengagement, c'est qu'aussi il y a les intercommunalités. Et ce désengagement aussi vis-à-vis des intercommunalités, si on prend l'exemple de ce territoire, puisqu'il y a deux intercommunalités, la CAPI et les Balmes Dauphinois, c'est de se dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour tout ce qui est... le besoin, que ce soit sur la musique ou autre, le théâtre et autres, c'est vrai que ça va se reporter de plus en plus sur ces intercommunalités.
Auront-elles plus, elles, de dotation pour cela?
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'elles pourront assumer financièrement aussi ces baisses? Elles peuvent pas aussi, comme les communes rurales ou comme les autres communes, supporter toute la charge de ce qui va baisser vis-à-vis de ces postes-là, tous ces budgets annexes. Donc, il y a un moment, c'est vrai qu'il faudra se poser les bonnes questions. Mais on peut, à l'heure d'aujourd'hui, en réduisant certains frais, donc il y a la partie sociale, est-ce qu'au défaut on ne va pas au-delà de ces prérogatives? C'est d'où la question. Nous, les communes, on a été capables, à l'heure d'aujourd'hui, de baisser toutes nos charges de fonctionnement pour avoir des excédents, pour pouvoir investir. Si les communes rurales ou les autres communes peuvent le faire, pourquoi ça ne peut pas être mis en pratique au niveau du département?
Sur par rapport à ce que disait Evelyne, je pense qu'on peut donner un exemple concret qui est celui de la desserte scolaire, par exemple. Sur le dossier de la desserte scolaire, l'attitude de la majorité actuelle du Conseil général socialiste, ça a été de venir voir la CAPI en disant « Finalement, vous êtes assez grand, vous devez pouvoir vous en occuper. Et donc, on vous propose de reprendre en charge un certain nombre de lignes de bus. Nous, on les supprime. » Vous vous débrouillez. Jusque-là, ça coûtait 800 000 euros. On vous donne 30 000 euros en compensation et faites en sorte que ça marche le mieux possible. Donc, on est tous tombés de notre chaise. On a dit que ça pouvait pas marcher. Et je pense qu'on a réussi à faire reculer le Conseil général, au moins à la rentrée prochaine. Et puis après, ce sera une nouvelle majorité, je l'espère, de prendre ce dossier en charge. Mais c'est l'exemple de ce qu'il faut pas faire. On peut réfléchir à une meilleure articulation entre le niveau du Conseil général et les intercommunalités, mais pas en jouant avec des services comme ceux-là, en particulier des services en milieu rural, et pas dans une absence totale de concertation avec ses partenaires. Donc voilà, il faut qu'on tire tous dans le même sens, et à ce moment-là, on peut trouver des voies d'action qui soient plus rationnelles, plus efficaces et plus économiques. On est obligé.
Très bien, alors cette émission va touche à sa fin. Peut-être dernière question avant de terminer. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous êtes évidemment maire de Bourgoin, vous êtes conseiller régional. Si vous êtes élu au conseil départemental, vous vous représentez aussi au régional ou pas?
C'est pas trop, enfin ça on verra plus tard, mais c'est pas, a priori, si je me présente au conseil départemental, c'est pour me concentrer sur ce mandat. Si je suis élu conseiller départemental, je renoncerai à mon mandat de conseiller régional, et puis après on verra bien ce que l'avenir nous réservera.
Et au conseil départemental, vous voulez aussi remplacer monsieur Cotalorda à la présidence?
Non.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus chez nous.
Merci.